Je m'aperçois au fur et à mesure que je fais ces recherches-là que la littérature précédente à nos expériences et nos autres, il y a énormément de constatations qui ont été faites et qui prouvent justement ce que la tradition a dit à propos du corps éthérique. Mais malheureusement, sans vouloir faire des critiques de personne, il semble que ces mesures-là, ces data-là qui ont été prises, n'a jamais été vraiment pris en considération par personne. Aucun des biologistes n'a voulu porter attention au fait que l'électricité et la biologie puissent être mélangées ensemble. C'est malheureux, c'est très malheureux parce qu'aller jusqu'à environ 1960, c'est pas loin, c'est 60, c'est 25 ans en arrière, ça paraît loin quand on dit 25, 1960, ça paraît moins loin. On n'avait aucun résultat, aucune source d'information, quelle qu'elle soit, sauf ces rapports-là, là, sur l'électricité et la biologie. Dans le sens que les biologistes n'admettaient absolument pas, à ça en 1960, qu'il y ait de l'électricité mélangée dans la biologie. Évidemment, avec certaines découvertes des ECG et des EEG, électrocardiogramme et électroencéphalogramme, on s'est aperçu que, ben oui, il y en a de l'électricité. Et aujourd'hui, il n'y a pas un médecin qui peut contredire le fait que les ECG et les EEG sont une indication du système métabolique. Par contre, beaucoup, encore énormément de recherches restent à faire sur l'interprétation des résultats qu'on obtient. C'est bien beau de prendre des mesures. On en parle présentement, c'est l'étude que je fais avec la bactériale. On prend des mesures, mais ça ne donne rien tant et si longtemps que ça passe une mesure pour faire une moyenne. Tout ce que je peux vous dire présentement, c'est que selon ce qu'on a fait à date, la plupart des gens sont au même potentiel, électriquement parlant. La plupart des gens sont au même potentiel, environ 100 millivolts de potentiel entre les deux mètres. Ces potentiels-là sont aussi répartis dans le corps. C'est-à-dire qu'on a remarqué encore très étrangement que la tradition se confirme que les chakras sont plus énergétiques que les autres parties environnantes de génétique du corps. C'est-à-dire que si vous prenez une mesure directement sur un chakra, par exemple le plexus solaire, vous allez avoir une polarité positive supérieure à si vous allez être à côté du chakra, ou dans le dos, ou sur le côté. À ce moment-là, ça nous a permis de constater que, quel que soit les chakras en question, il y avait une forte résonance, je dirais, de ces chakras-là dans le corps vital, dans le corps éthérique. Et même plus que ça, je ne voudrais pas faire des conclusions qui pourraient paraître sommaires, là, parce que je n'ai pas encore assez d'informations pour pouvoir tirer des conclusions valables. Mais on peut dire que lorsqu'une personne devient malade, ces polarités-là inversent. J'ai pu détecter dans les 10 cas que j'ai eus, trois personnes qui avaient mal à la tête. Juste en regardant la machine, en voyant que la polarité était négative. Normalement, la tête est positive par rapport au bras, gauche ou droit. La façon que ça fonctionne, c'est que tu as la colonne vertébrale. Et justement les nerfs qu'on a à l'intérieur et les nerfs périphériques. Bon. Le courant, les impulsions nerveuses, si vous voulez, se transportent toujours, dépendant évidemment de quel système qu'on prend, dans une seule direction. C'est-à-dire que le nerf lui-même est fonctionné. Ah, je sors de physicist into physician, mais j'ai pas le choix. C'est à peu près comme ça. J'ai ici ce qu'on appelle les dendrites, qui se trouvent à être la source de l'impulsion. Et ici, vous avez l'axone, qui se trouve à être la terminaison, si vous voulez, l'input et l'output. Curieusement, très curieusement, on s'est aperçu que le nerf, et les neurones, si vous voulez, ne transportent le courant que dans une seule direction, à l'image de ce que la physique appelle un semi-conducteur. C'est-à-dire que le courant ne peut être passé dans cette direction. Donc, si, c'est-à-dire que le plus ici et le moins est là. Si vous essayez d'inverser le courant dans l'autre direction, vous allez, dans le cas des neurones, rendre la personne sans connaissance. Ça a été démontré chez les salamandres, ça a été démontré chez un tas d'animaux. Si vous prenez le cerveau d'une salamandre, exemple, ici, vous avez derrière, puis ici, avant, il y a un potentiel, c'est-à-dire un courant qui se dit du derrière à l'avant, dans le cerveau. Ça, c'est vrai aussi pour l'homme. C'est de l'ordre de Uniquement par, c'est dans les très très petits, c'est juste à la moitié, un millionième d'ampère. Comparé, là, dans la maison, une entrée électrique dans une maison, c'est de l'ordre de 200 ampères ou 250 ampères. Donc c'est à peu près 250 millionième plus grand que le courant qui est dans le corps électrique. Maintenant, si, et ça c'est des expériences que je rapporte de d'autres auteurs, on inverse le courant par le moyen d'injection de deux électrodes. Ici, normalement, tu as le plus et le moins. Mais en mettant nos électrodes, on va mettre le plus ici et le moins là. À ce moment-là, lorsque le courant va être de telle sorte qu'il inverse le courant du cerveau lui-même, l'animal tombe inconscient. On s'est aperçu que c'était une très bonne façon d'anesthésier les patients, les animaux en tout cas, parce que aussitôt que tu débranches le courant, ça prend à peu près 10 secondes et l'animal revient à la vie comme si elle n'avait jamais été sa connaissance. D'autres auteurs ont rapporté le même fait, mais ont dit que l'animal s'est réveillé avec un état d'un peu comme s'il avait été drogué. Il était un peu chambranlant, puis un peu croche. Il y a d'autres façons de prouver que le courant est bel et bien semi-conducteur. Parce que vous voyez, la grosse affaire dans tout ça, c'est que un bonhomme du nom de dont je tairai le nom pour faute d'ignorance, a fait des expériences et lui a dit que la transmission des impulsions neurales, la transmission des impulsions du neurone se font par action biologique, par un procédé, par un nom, par un composé qui s'appelle, ça je me rappelle, acétylchlorine. Bon, je vous fais grâce à la formule chimique. Ce processus-là, ou ce composé-là, était censé transmettre les impulsions nerveuses et transmettre le système de codage, si on veut, nerveux, mais sans inclure aucune électricité. Bon, il a été démontré que si cette chimie-là fonctionne, à ce moment-là, ça prendrait environ un mois à une impulsion pour traverser de la moelle épinière au doigt. Un mois. Vous faites mal, ça fait un mois avant de le sentir. Donc, il y a définitivement quelque chose qui n'est pas correct là-dedans. C'est que d'autres auteurs sont arrivés, avant même que je m'en rende compte, et ont dit, il y a de l'électricité là-dedans, c'est de l'électricité semi-conducteur. Bon. Pour prouver ça, c'est assez difficile. Il y a deux types d'électricité. C'est-à-dire que la conduction ionique, c'est-à-dire que si vous prenez une batterie, vous savez comment c'est fait une batterie, c'est simple à mourir, hein. C'est pas de la magie. Une batterie, vous prenez une borne, prenez une borne de zinc, par exemple, hein, et une borne de cuivre. Mettez le tout dans une solution de basique ou acide, et vous obtenez une batterie. La différence de deux matériaux, deux métaux différents, à l'intérieur d'une solution conductrice électrique, électrolyte qu'on appelle, va produire une batterie. C'est-à-dire qu'il va y avoir un courant qui va partir ici du plus. Attendez, ça c'est le plus ici, c'est le moins, c'est le plus. Il va y avoir un courant qui va partir ici dans la batterie et qui va faire que lui va se charger par rapport à lui. D'accord? C'est-à-dire que les électrons, autrement dit, partent de la polarité négative puis travaillent, traversent à l'intérieur. Ce qu'on appelle une condition ionique. C'est-à-dire que c'est des éléments. Ici, NaOH, je ne vais pas faire beaucoup de chimie, là, mais NaOH se divise en deux parties, l'ion Na+ et l'ion OH-. H-. À ce moment-là, ce qui se produit, c'est que ces ions-là, c'est eux qui conduisent à l'intérieur de ça. Vous savez qu'un courant, c'est la conduction d'électrons, de particules chargées. D'accord? C'est le fait que quand on a un courant I qu'on dit de 1 ampère, par exemple, ça veut dire qu'il y a un nombre N de charges, que ce soit des ions, c'est-à-dire des atomes dont on a enlevé des électrons, ou que ce soit des électrons eux-mêmes, il y a un nombre de charges qui passent par seconde dans le fil. D'accord? C'est ça un courant. Ça, c'est la conduction ionique. La deuxième conduction qu'on connaît, c'est la conduction électronique, la conduction dans les métaux. C'est-à-dire que tu prends une plaque de métal elle-même, et là, vous allez comprendre pourquoi Les acupuncteurs, ça fonctionne. Si tu prends une pièce de métal, quel que soit le morceau, et tu appliques un potentiel ici. À ce moment-là, si tu ne branches pas l'autre côté, c'est-à-dire si tu n'as pas un autre potentiel ici, le nombre de charges qui sont ici vont être égal au nombre de charges ici. C'est-à-dire que le matériel lui-même, le métal, ne peut pas supporter de différence de potentiel entre les deux bouts. C'est-à-dire que si tu avais un bout d'un fil qui était plus 5 volts, vous allez mesurer au bout du fil, vous allez avoir encore plus 5 volts. Il ne tombe pas. Okay? La résistance d'un conducteur est très, très faible. À ce moment-là, ce qui se produit, c'est les électrons qui sont en réalité libres de bouger dans le métal, ou sur la surface du métal pour être exact. Donc, vous avez une espèce de gaz électronique dans le sens composé d'électrons, qui bouge dans le métal pour accommoder justement le fait qu'il y a une différence de potentiel. C'est comme si vous aviez un paquet de monde qui décide d'une côte, et puis d'un coup, on les mettait toutes sur main. Ça ne peut pas descendre à la même vitesse en bas. C'est la même chose qui se produit avec les électrons dans le métal. Le troisième type de conduction, et c'est là que ça devient important pour nous autres. Ben, OK, avant de faire ça, je vais dire pourquoi l'acupuncture. Ce qui se produit en acupuncture, c'est qu'on prend les aiguilles de métal. C'est bien important, les aiguilles de métal, au départ. Deux choses en acupuncture. Première, l'aiguille de métal, et on va planter l'aiguille. C'est un bonhomme vert, ça, là. Ou un lézard mal formé. C'est Amonra, vas-y, il manquait qui est. Bon. Si vous rentrez une aiguille comme ça, qu'est-ce que vous faites? Vous vous trouvez finalement à rentrer un morceau de métal à l'intérieur du champ éthérique, c'est-à-dire le champ électrique qui est autour de vous, comme ça, et vous rentrez ça dans la peau. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous trouvez à mettre le potentiel ici à eux-mêmes que le potentiel ici. Donc, vous rééquilibrez le corps physique avec la valeur électrique dans le corps éthérique. Deuxième façon pour laquelle ça fonctionne, c'est qu'on a remarqué que les nerfs vont émettre des impulsions lorsqu'ils sont attaqués. Et c'est d'ailleurs la première façon qu'on s'est aperçu que les nerfs transportaient de l'électricité, c'est parce qu'on appelle le courant de récupération. C'est-à-dire que lorsqu'un animal est blessé, il y a un certain courant qui va passer dans la plaie et qui semble aider à guérison. Et plus la plaie est grave, et plus ce courant-là va être grand. D'accord? À ce moment-là, lorsque vous rentrez encore une fois votre aiguille dans un nerf, parce que les méridiens sont associés au nerf, vous émettez une impulsion dans le nerf qui va aller justement probablement dans la direction opposée où normalement il va, donc rétablir la situation qui était à l'envers originellement. Par exemple, si vous avez un point ici plus qui est moins, exemple, par rapport à votre poignet qui est plus, vous êtes à l'envers. Vous êtes à l'envers. Si vous prenez une aiguille, je ne suis pas comptable, si vous prenez une aiguille et que vous la placez sur le bon méridien, les polarités vont revenir sur la polarité normale. Ça, c'est la conduction métallique. C'est pas comme ça que les nerfs transportent l'électricité. Les nerfs, il n'y a pas aucun fil de métal dans notre corps, il n'y a aucun conducteur dans notre corps. La partie de métal qu'on a à l'intérieur de nous est très, 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 très faible, de l'ordre de ppm, parts par million. Le troisième type, ça s'appelle la conduction semi-conductrice. C'est toujours la conduction par des électrons, mais cette fois-ci, c'est dû à la symétrie de la structure cristalline qui fait que ces électrons-là puissent bouger. C'est pas comme dans un métal, le fait que les électrons sont libres dans un métal, mais c'est la structure de cristal même de la matière qui fait que les électrons peuvent se promener. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Si vous prenez, par exemple, du silicium, il y a une structure comme ça, et que vous mettez, c'est-à-dire que chacun des atomes est entouré par quatre atomes. Vous voyez, c'est-à-dire que celui-là, il y a un lien ici, un lien ici, un lien ici, et en réalité, il devrait y avoir une autre structure là, une autre structure là, une structure là, il y a un 6, excusez-moi, 6. Si par contre, vous prenez un autre atome, qui a par exemple, au lieu de quatre éléments de valence, 5. À ce moment-là, la structure cristalline va être complétée pareil, mais il va y avoir un électron de plus dans cet atome-là, et c'est cet électron-là qui va servir à la conduction. Ça, c'est ce qu'on appelle le N. de type N, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de valences supérieures. OK, par exemple, le phosphore. L'autre type de semi-conduction, c'est le cas où vous avez un atome où il y a trois électrons de valence. À ce moment-là, il y a un trou dans l'orbite, dans le cristal. Il y a un trou qui devrait contenir un électron, parce que normalement, il vous en avoir quatre. Pour tenir sa structure, il y en aurait quatre, là, il y en a juste trois. À ce moment-là, ça va être un trou. Puis les trous conduisent aussi. Les trous se déplacent dans la structure. C'est-à-dire que les électrons sautent d'une place à l'autre, que le trou se trouve à se déplacer, puis l'autre bord. Ce qu'on appelle le type P. P parce que c'est positif, c'est des trous positifs qui se déplacent. Puis N parce que c'est négatif, c'est des charges négatives qui se déplacent. Lorsque vous mettez tous ces matériaux-là ensemble, une jonction P avec une jonction N, vous obtenez une diode. C'est-à-dire un matériel qui va conduire dans une seule direction et pas dans l'autre. Parce que, évidemment, les électrons peuvent passer à travers d'un précipice comme ça, mais les trous, eux autres, peuvent pas. Comprenez-vous? À ce moment-là, les trous, l'électron peut aller dans un trou. L'électron ne peut pas aller dans un électron. La conduction se fait dans une direction seulement. Et c'est ce type de conduction-là qu'on observe dans les neurones. Le médecin a déjà dit avec un physicien comme collaborateur que la structure, justement, la structure, je dirais, moléculaire du neurone est assez complexe et assez stable et assez symétrique pour justement supporter ce type de conduction-là. Bon, c'est une hypothèse. Pour vérifier l'hypothèse, il faut aussi trouver une expérience qui va nous prouver que la conduction, c'est la conduction semi-conducteur. C'est pas une conduction ionique et c'est pas une conduction métallique. Au départ, on sait que c'est pas une conduction ionique ni métallique parce que, je veux dire, l'ion prendrait, comme on dit tantôt, un mois avant de se rendre au bout. Et puis, la conduction métallique, on n'a pas de métal là-dedans. Donc, on a fait une petite expérience. Ce qu'on appelle l'effet de Hall. Ce qui se produit, c'est que lorsque vous avez un courant, un flot de charge qui se promène comme ça, et que vous mettez un champ magnétique perpendiculaire au déplacement, mettons que les charges s'en vont comme ça, puis moi je mets un champ magnétique comme ça, nord-sud, les charges s'en vont comme ça, à ce moment-là, ça va dévier les charges. Le champ magnétique va dévier les charges comme ça. Ce qu'on appelle l'effet de Hall. Bon. Un bonhomme du nom de Becker, qui a d'ailleurs écrit le livre de Body Electric, que je recommande à tout le monde, c'est fascinant, a fait une expérience de ce type-là et s'est aperçu que si vous preniez une salamandre, parce que la plupart des expériences ont été faites sur une salamandre, vous mettez une salamandre dans un aimant, à peu près, à ce moment-là, le courant magnétique, ou si vous voulez, le champ magnétique opposait une telle pression sur le courant on se servait de l'épine dorsale, les nerfs principaux en arrière, que le courant arrêtait de passer. Mais c'est normal, regardez. Si vous avez un courant comme ça, dans un tube quelconque, et que moi, je mets un champ magnétique comme ça, c'est-à-dire qu'il rentre dans le tableau, à ce moment-là, les électrons vont chercher à sortir. OK? On a une force. Si je mets un champ magnétique tellement fort, à ce moment-là, il n'y aura plus un qui va sortir ici, ils vont tous sortir là. Donc à ce moment-là, il serait possible, si c'était le cas, c'est-à-dire la conduction semi-conducteur, il serait possible d'arrêter complètement les nerfs, ou si tu veux, la conduction des nerfs avec un champ magnétique. Ils ont essayé ça, et effectivement, ça fonctionne. Ça fonctionne, vous pouvez prendre un grand champ magnétique, le mettre sur la salamandre, et il tombe sans connaissance, de même. Aussitôt que le courant arrête de passer, il tombe sans connaissance. On avait remarqué, on ne savait pas si c'était une cause ou un effet, mais on avait remarqué que si vous faites tomber un animal sans connaissance sous anesthésie locale ou globale, ce qui arrive, les potentiels tombent. Le potentiel électrique tombe abruptement dans tous les nerfs. Mais on ne savait pas s'il tombe sans connaissance parce que le potentiel tombe ou si le potentiel tombe parce qu'il tombe sans connaissance. Mais la poule puis l'œuf, on ne sait toujours pas ça. Mais on sait que si on force l'animal à faire tomber son potentiel, c'est-à-dire en mettant un champ magnétique puis en déviant le courant de sa direction normale, il tombe sans connaissance. On s'est aperçu que chez ces gens-là, je fais toujours un rapport de ces gens-là, ils sont aperçus que le champ électrique dans le corps humain a la propriété d'être morphogénétique. C'est un grand mot qui se divise en deux petits mots. Morphos, qui veut dire la forme, et genèse, qui veut dire source. Donc, un champ morphogénétique, c'est le champ qui est à la source de la forme. Vous, dans 6 mois, il n'y a pas une molécule, il n'y a pas une cellule plutôt, de votre corps qui n'a pas été renouvelée, sauf peut-être celle du cerveau. Et pourtant, on vous ressemble encore. Moi, dans 6 mois, je vais vous voir, vous allez vous ressembler, vous allez vieillir un peu, mais 6 mois, mais vous allez vous ressembler. Mais quelle est la probabilité que les molécules, que les cellules se réassemblent dans exactement la même direction qu'ils étaient avant, selon la théorie classique normale, c'est zéro. Pourquoi est-ce qu'elles se réalignent exactement comme les autres étaient? Ça ne dépend pas de la cellule elle-même. Ça ne dépend pas. Donc, la spécialisation au niveau du code génétique va fonctionner, mais ce n'est pas du code génétique que vient la morphologie. Le code génétique va déterminer des caractères qui vont s'appliquer ensuite en morphologie, dans la forme elle-même. Donc, qu'est-ce que la tradition disait? Le corps éthérique, c'est le corps qui entoure le corps humain, c'est la matrice sur laquelle le corps physique a été construit. Mais là, c'est la science qui dit la même chose. Sans savoir, évidemment, que la tradition a dit ça. Parce qu'évidemment, si c'est là, tu ne vas pas parler de tradition. J'ai déjà assez de problèmes de même avec mon imagination sans commencer à parler de la tradition. Mais c'est fascinant de voir à quel point cette tradition-là fit avec toutes les connaissances que j'ai en physique. J'en aurais pour 200 séminaires à montrer tout ce qu'il y a de la tradition et de la physique. C'est tout pareil. Ce que la physique dit aujourd'hui, maintenant, récemment, dans les dernières années, c'est des choses qui étaient dites il y a 7000 ans avant, ou 23000 ans avant. Donc, ça, c'est notre conduction. Le corps énergétique, c'est le corps vital. Pourquoi qu'on l'appelle le corps vital? C'est une bonne question. On a pu démontrer encore une fois avec les choses. C'est pas sûrement pour ça que les gens n'ont plus originalement le corps vital, parce qu'il n'y avait pas d'information. Mais comme j'ai dit tantôt, sous anesthésie, le corps vital tombe à zéro. C'est-à-dire l'énergie électrique qu'il y a dans les intuitions. Non pas rien qu'à zéro, mais des fois, elle va être négatif. Faut comprendre ce que ça veut dire positif et négatif, hein. Lorsqu'un point est positif, ça signifie qu'il est une source énergétique, une source de courant. Et les points positifs dans le corps humain, sont la tête, le cou, le plexus, le sacrum, c'est tout. Enfin bref, tout ce qui se rapproche de la colonne. On pourrait penser que c'est parce que la colonne est la source, les nerfs périphériques, la sortie, fait que tout fonctionne comme ça. Non, parce qu'il y a deux sortes de nerfs. Ça devient compliqué la biologie, mais je ne sais pas ce que je fous là-dedans. Fait que tu as les nerfs moteurs, puis tu as les nerfs sensoriels. Les nerfs moteurs, c'est des nerfs qui sont conducteurs comme ça. C'est-à-dire de la colonne à petite main. OK? C'est un nerf moteur, c'est celui qui réagit entre la colonne et la main. Et tu as les autres nerfs, les nerfs sensoriels, qui eux font le travail inverse. C'est-à-dire qu'ils sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils amènent l'information de la main à la colonne. Quand on arrive, qu'on a des gens qui, par exemple, c'est ça, c'est des superbes, de belles hypothèses, parce qu'on s'en va dans la paralysie cérébrale, on s'en va dans multiple sclerosis, excusez les anglicismes, on s'en va dans un paquet de maladies qui n'ont jamais pu être comprises autrement qu'avec ça. Parce qu'une personne qui souffre de paralysie cérébrale ou de MS, c'est lui ici qui ne fonctionne pas. L'émoteur. Il a beau savoir toute l'information de ses membres, il n'est pas capable de transmettre l'information de ses membres. Ça peut être dû à bien des choses. On ne sait pas encore pourquoi. Mais on sait, par exemple, qu'il y a une cause commune, c'est que l'ensemble des nerfs du moteur sont déficients. tous les nerfs matins. Alors qu'une autre personne qui va être. J'ai perdu le terme encore une fois, là. C'est le contraire. C'est-à-dire que ce nerf-là, personne ne va se brûler, ne sentir absolument rien. Et on s'est aperçu, souvenez-vous, que pour être capable d'empêcher l'action de ça, il s'agit d'empêcher le courant de passer. Dans un semi-conducteur, pour empêcher le courant de passer, tout ce qu'il faut faire, c'est d'enlever le courant à sa base. C'est-à-dire que si vous prenez un transistor, c'est comme avoir une résistance qu'on fait varier continuellement avec l'application d'un voltage ici sur la base. Si vous appliquez un voltage sur la base, le courant passe. Si vous n'appliquez pas, le courant ne passe pas. Donc les nerfs semblent être non pas seulement une diode, proprement dit, mais il y a un voltage de contrôle, comme ça. Qui agit pour voir si le nerf va conduire ou pas. Et c'est là, justement, que vient la source d'à peu près toutes les maladies nerveuses qu'on connaît, et même le cancer. Parce que qu'est-ce que le cancer? Ou du moins, qu'est-ce qu'on remarque chez les cellules cancéreuses? C'est qu'elles ont perdu leur contact avec l'environnement. D'accord? C'est-à-dire que si moi, je injecte un petit courant inverse, encore une fois, dans mon doigt va perdre le courant, va perdre le contact avec la réalité. Voyez-vous ce que je veux dire? Si mon doigt, il y a un petit courant qui passe comme ça et que moi, je l'inverse, ce doigt-là devient anesthésié. Bien? Okay? Dans ce moment-là, et même si non seulement je l'inverse, mais si je l'arrête aussi, il devient anesthésié. Donc, une cellule qui n'aurait pas ce passage-là serait anesthésiée. Donc, il pourrait se multiplier, sans même se percevoir qu'à la frontière de N, il y a d'autres cellules. C'est une possibilité. Je dis pas que c'est une éducation, là. C'est une possibilité. Donc, vous voyez que c'est des recherches qui sont plus du niveau de la physique que du niveau de la médecine, parce qu'on fait justement, encore une fois, le parallèle entre les semi-conducteurs et, c'est-à-dire une partie bien définie de la physique et la médecine. Comme je dis, les biologistes ne veulent rien savoir de ça. Ils sont trop, pour employer le terme de Dr. Grad, sont trop choqués par leur perte de compréhension. Quand c'est fait pas, les physiciens sont aussi pires des fois. Ils peuvent être graves aussi. On n'a rien qu'à regarder ce qu'ils ont fait avec Einstein, pour comprendre. Mais au moins, le physicien a l'avantage de regarder les chiffres de l'autre. Je veux dire, s'il y en a un qui dit que Jupiter est en train de faire des pirouettes, même si ça ne fait pas les théories, ils vont regarder si ces chiffres sont valables. Si oui, ben ils vont commencer à se poser des questions, puis là, ils vont mettre les théories en question. Les biologistes, eux autres, si ça ne fait pas la théorie, ils ne regardent même pas les chiffres. C'est ce qui s'est passé. Depuis 1720, c'est-à-dire l'invention de la batterie par Volta, qu'on travaille l'électricité et la vitalité. Vous savez, dans le temps de l'Atlantide, on guérissait tout par l'électricité. Et c'est ce qu'on est en train de redécouvrir, c'est que le système le plus élémentaire, le plus simple et le plus efficace, ça va être de prendre des points d'acupuncture, faire le même traitement qu'acupuncture, mais là, tu injectes un signal dans le corps, au lieu de simplement laisser les aiguilles telles quelles. C'est ce qu'on fait en Chine, hein? On s'est rendu compte, comme je vous disais tantôt, que si vous avez un cerveau avec un courant qui passe comme ça, et que vous arrêtez le courant de passer d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire la façon qui se fait, c'est d'introduire un courant inverse de façon à ce que la somme des deux courants soit nulle, vous mettez l'âme sous anesthésie, ben on s'en sert en Chine. Vous avez des gens qui ont les deux oreilles, on lui met deux électrodes après les oreilles, puis là-dessus on envoie un courant pulsé, puis la personne sous anesthésie. Et on va anesthésier les points qu'on veut. Mais c'est pas l'anesthésie globale. On anesthésie, si la personne s'est opérée pour l'appendicite, bon ben on anesthésie le bas du ventre, puis ça finit là. La personne est complètement éveillée, elle ne sent pas le couteau rentrer, elle ne sent rien, elle est complètement éveillée. Juste de l'électricité de l'ordre de 1 microampère, encore une fois, à le dévoltage de l'ordre de 1 volt, c'est suffisant. C'est fort. Moi, je commence à comprendre un peu pourquoi les biologistes en ont peur, puis pourquoi les médecins en ont peur. Puis surtout, pourquoi que les pharmacies en ont pas? C'est quoi l'énergie? Là, j'attends une suggestion. Gênez-vous pas. Parlez plus fort, parce que je comprends pas, par exemple. Robert. Ah! Ben, écoute, il y a... Pense à côté de ton chose, hein. Il y a une énergie qui vient du fait que ton, quand tu assouplis tes muscles, quand tu tends tes muscles, il y a une onde énergétique qui est émise. Quand tu es détente, il y a une onde énergétique qui est émise. Quand tes os sont courbés, s'il y a un choc, justement, comme tu dis, il va y avoir une impulsion d'émise. Mais c'est pas, on parle pas de la même sorte d'énergie, là, justement. C'est pour ça que je pose la question, c'est quoi l'énergie? Bon. Pas de réponse? Première réponse que la plupart des gens me disent, l'énergie, c'est la vie. Deuxième réponse, c'est ce qui sort de nous. D'autres sens. Ça, c'est des suggestions là, des gens. Hein. La lumière. L'énergie, c'est la lumière. C'est la deuxième fois que je donne cette conférence. Hein?
L'eau est une énergie qui a conduit à l'énergie.
OK. Là, je vois que j'ai bien fait de faire un détour. L'énergie, c'est pas la vie. La vie est impossible sans l'énergie, mais la vie est un effet de l'énergie et non pas l'énergie proprement. Donc, la vie, c'est un effet, c'est pas une cause. Ce qui sort de nous, non, c'est pas encore l'énergie. L'énergie, c'est ce qu'il y a en nous qui nous permet de sortir quelque chose. La lumière, c'est une forme d'énergie. C'est pas l'énergie. La force, c'est l'application d'énergie. Et puis les vibrations, les ondes vibratoires, encore une fois, c'est une forme d'énergie. À date, on n'a pas encore une fois défini qu'est-ce que c'était l'énergie. On a dit les différentes formes de pommes, les différentes sortes de tomates. On n'a pas dit qu'est-ce qu'elle était, justement. Une vibration, c'est une forme d'énergie. Ah non, là, tu parles d'un champ, c'est-à-dire quelque chose qui... C'est un champ qui sort de nous. Ça, c'est la notion de champ. C'est-à-dire que ce soit un champ électrique, magnétique, gravitationnel, quel que soit le champ, c'est ce qui sort de nous. Non. L'énergie... C'est une quantité abstraite. Abstraite. Ça n'a aucune réalité physique. C'est une quantité abstraite qui est une mesure de notre capacité d'action. C'est des grands mots, hein? Ça veut dire tout simplement que plus tu as de possibilités d'agir et plus tu as d'énergie. La liberté, c'est l'énergie première. Ça m'étonne que personne n'ait dit liberté comme énergie. Parce que c'est ta première énergie, ta liberté. C'est ce qui te permet d'agir. Et ça, c'est la définition au sens physique de l'énergie. C'est la capacité d'action. Ou la capacité de mettre quelque chose en action. On a dit tantôt que ce qui sort de nous, bien, c'est justement c'est l'énergie qui nous permet de mettre en action le corps électrique, de mettre en action le corps magnétique ou le corps gravitationnel. Donc, c'est pas un gaz, c'est pas quelque chose de vaporeux qui sort, mais c'est quelque chose d'abstrait, complètement abstrait. C'est un nombre de points qui est à l'intérieur de nous autres, qu'on contient, et qui peut se manifester de différentes façons. Sous forme de lumière, qui est une onde, sous forme de chaleur, qui est aussi une onde, sous forme de mouvement, sous forme de champ potentiel. Champ potentiel, c'est lorsque vous êtes à l'entour d'une planète, ben, il y a une forme d'énergie qui vous attire vers la planète. C'est-à-dire que dans l'endroit où vous êtes dans un champ énergétique qui fait que vous êtes attiré par la planète. On appelle ça, en général, ces énergies-là, potentielles. le type d'énergie qui te retient. Alors que le type d'énergie qui te repousse, on va l'appeler en général cinétique. Cinétique qui vient de kinos, mouvement. Maintenant, la capacité de mettre les choses en action. Au départ, on avait tendance à penser que la seule façon de mettre quelque chose en action, c'est s'il y a contact. Si je veux que, à moins que je sois un grand tête, puis que je veux bouger mon meter sans y toucher, si je veux qu'il bouge, il faut que j'y touche. D'accord? On ne pouvait pas admettre le fait qu'il puisse y avoir une action à distance. Mais quand on s'est mis à examiner avec Newton le champ de gravitation et par la suite avec Gauss les champs électriques et magnétiques, on s'est aperçu que ces champs-là, effectivement, agissaient à distance. C'est-à-dire que si tu avais une charge ou une charge ici et que tu en avais une autre ici, il y avait une action que la grosse charge faisait sur la petite charge et qui induisait la petite charge en mouvement vers la grosse. En admettant évidemment là, qu'il y avait des polarités opposées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir entre les deux qui fait que lui dit « moi je suis plus », lui dit « moi je suis moins », ok, on se colle. Bon. La physique a imaginé la lumière comme étant l'intermédiaire entre les deux forces. Einstein a raffiné ça en disant que c'est pas la lumière, mais c'est le continuum lui-même qui est la source. Dans le sens que, avant, on parlait de l'éther, c'est-à-dire une espèce de lieu non physique, absolu, où tout bouge par rapport. Aujourd'hui, on parle du continuum espace-temps. C'est-à-dire que si vous êtes dans un univers dit cartésien, vos coordonnées vont être comme ça. C'est-à-dire perpendiculaire à droite. Si vous mettez une petite baie ici, elle ne bougera pas. D'accord? À moins que vous lui donnez une poussée, dans ce cas-là, elle va se mettre à bouger, puis elle va continuer à bouger avec la même vitesse. Jusqu'à ce que c'est la friction qui l'arrête. Si vous prenez un champ, quel que soit le champ, il y a la propriété de distorsionner ça. D'accord? Ce que ça signifie, ça, c'est que au lieu d'être devenu comme ça, vos choses vont être rendues. Je vais le faire, là, au lieu d'être comme ça, là, je vais le mettre comme ça, OK? Je vais être rendu comme ça. Prenez-vous? Le dessin que ça fait? C'est mal fait comme dessin, hein? Pas trop m'en demander. Voyez-vous mieux, hein? C'est comme un bol, là. Bon, si vous mettez une bille ici, vous allez aller. Et pourtant, il n'y a rien entre les deux. C'est juste l'espace-temps. Mais c'est que l'espace-temps, c'est-à-dire la mesure que nous, on se sert pour mesurer notre vitesse, notre espace, notre accélération, c'est elle qui a été déviée. C'est elle qui a été distorsionnée. Ça, Einstein l'a prouvé pour le champ de gravitation, mais c'est vrai aussi pour tous les champs, que ce soit électrique, magnétique, gravitationnel, ou même les champs qu'on n'a pas encore découverts. C'est une propriété de la matière de distorsionner autour d'elle le milieu dans lequel elle vit. C'est comme si moi j'ai une petite palette comme ça, je la mets dans l'eau et je la fais tourner. Ben, ça va distorsionner tout ça autour. Mais c'est l'interaction entre la petite palette et le fait qu'elle bouge, c'est-à-dire qu'elle est vivante, ça fait un effet dans son continuum extérieur et tout objet qui va être autour de ça va se mettre à spinner alentour. Donc, encore une fois, le type d'action à la distance, mais là, c'est l'eau entre les deux. Et ici, là, c'est l'espace-temps, le continuum ou la référence inertielle. Donc, aussi, une autre chose importante, la notion de l'énergie totale. Il y a un principe en physique, c'est une loi qui a été démontrée pas toujours valide, c'est-à-dire qu'elle devient pas valide au niveau des très, 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 très petits corps, c'est la loi de conservation de l'énergie. Ce qui rentre égale à ce qui sort. OK? Autrement dit, l'énergie totale d'un corps est toujours la même. À moins, évidemment, qu'on lui donne une force. Ou qu'on, quand on parle d'un corps, on parle toujours d'un corps en repos, là, on ne le touche pas. Mais c'est sûr que si on le touche, on lui en donne de l'énergie. Et si tu le laisses tel quel, son énergie ne changera pas. Ce qui va changer, par contre, c'est là où l'énergie est impliquée. C'est là que ça devient important, c'est la notion de transformation de cette énergie-là. Et c'est ça que notre corps fait continuellement pour qu'on soit en vie, c'est qu'il transforme l'énergie vitale en énergie chimique. Si l'énergie chimique est transformée en énergie de pensée, et comme du causal à la pensée, le causal va donner une impulsion et le mental va la recevoir comme idée, bon ben le corps physique reçoit l'impulsion du corps éthérique et le transforme en vie. Bon. À ce moment-là, si on prend par exemple un système donné, quel que soit le système, mettons le système planétaire dans lequel on se trouve, et on fait l'énergie totale de notre système. L'énergie totale, ça va être l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. OK? L'énergie potentielle, c'est la force de gravitation, MG, H. D'accord? Et puis, ça va être 1/2 mg². Bon. Inquiétez-vous pas les équations, ça n'a rien d'important. Ce que ça veut dire, c'est que l'énergie potentielle, elle vous retient, elle. OK? L'énergie cinétique, elle vous repousse. Donc, il va y avoir une balance. Pour qu'un corps reste en orbite autour, il faut que l'énergie qui le retienne soit égale à l'énergie qui le repousse. À ce moment-là, il va tourner en rond. C'est ça qu'on appelle les équations d'orbite. C'est ce qui fait qu'une fusée capable de rester en orbite autour de la Terre, c'est que la force gravitationnelle qui retient et la force centrifuge qui le repousse parce qu'il tourne comme un barido qu'on fait tourner autour d'une corde, ils se contrebalancent, les deux sont égales, puis là, l'objet tourne en orbite circulaire autour de la Terre. Ce potentiel autour du champ de gravité est de cette forme-là. C'est-à-dire qu'il est toujours en négatif. L'énergie totale d'un système dit fermé est toujours négative. Ce que ça signifie, l'énergie, c'est une quantité de liberté, une quantité de pouvoir mettre ce que tu as en action. Si ton énergie totale est négative, c'est que tu es inhibé. Tu es restreint dans ta liberté, si tu veux. Quand l'énergie est négative, l'énergie totale est négative, à ce moment-là, ce que ça signifie, mettons ton énergie est ici, ça signifie que tu es à l'intérieur du champ de la gravitation, tu ne sors pas. Comprenez-vous ce que je veux dire? Quand ton énergie est négative, c'est que ta liberté a été inhibée, c'est-à-dire que tu es contraint de rester à un certain endroit. Tu ne peux pas t'en sortir, sauf si tu donnes l'énergie exacte que ça te prend pour monter ici. Comprenez-vous? Si moi je suis à une certaine altitude ici, c'est le rayon de la Terre. OK? Ça, c'est le rayon à la surface de la Terre. Plus tu t'approches du centre de la Terre, moins la gravité est grande. Connaissez-vous ça? La Terre, quand tu es sur la surface, c'est là qu'il y a la plus grande gravité, maximum. Si tu rentres vers le centre de la Terre, ta gravité diminue constamment, constamment. Jusqu'à ce que tu arrives au centre de la Terre et tu n'as plus de gravité. Puis là, tu continues vers la Chine, et tu remontes ta gravité jusqu'à ce que tu arrives à la surface où tu as la même gravité qu'avant. Donc, c'est cette courbe-là. La gravité est très faible ou nulle au centre de la Terre, le rayon ici, là. Et au fur et à mesure que tu augmentes ta distance du centre de la Terre, ton potentiel augmente négativement, ça veut dire que la force augmente, jusqu'à ce que tu arrives au maximum, c'est-à-dire la distance entre le noyau de la Terre et la surface. Puis là, au fur et à mesure que tu t'éloignes, ton potentiel diminue. Donc, si tu es ici à 200 km d'altitude, ça va te prendre juste ça en énergie pour pouvoir sortir d'orbite. Alors que si tu es sur la Terre, ça va te prendre ça en énergie pour sortir d'orbite. Donc, plus ton niveau d'énergie est bas, et plus tu es contraint de rester où tu es, sans bouger. Ou si tu bouges à l'intérieur d'une certaine limite bien définie. Par exemple, si tu avais un plat, ça représentait un plat, puis qu'on avait mis une petite boule pour la faire tourner, elle tournerait, mais elle resterait tout le temps à la même hauteur. S'il donne plus de vitesse, elle va monter plus haut. Mais aussitôt qu'elle va ralentir, elle va redescendre plus bas. C'est exactement la même chose. Donc, l'énergie négative, ça, c'est pas un non-sens. L'énergie négative, ça veut dire que ton système est contraint de rester ici. Comme nous tous ici, présentement, on est tous dans un système d'énergie négative. Si on n'était pas un système d'énergie négative, on serait juste rendu au mur au plafond. Parce qu'il y a une force qui nous retient, et l'énergie qu'on a est plus faible que la force qui nous retient, donc on reste là. Bon. Déviation sur... Si maintenant on regarde... Un atome d'hydrogène, on a encore le même type de potentiel que tantôt, mais on s'aperçoit qu'il y a des endroits, je vais leur dessiner. OK? Il y a des endroits comme ça, Ça n'arrive pas à zéro, jamais. C'est ce qu'on appelle la simple technique. Et c'est ces endroits-là ici que les électrons vont aller se mettre. C'est-à-dire à cette distance-là, bien précise. R1, R2, R3. Ce qu'on appelle les orbites. C'est-à-dire que tant et si longtemps que l'électron est sur cette orbite-là, il est stable, il ne bouge pas dans le sens qui est très bien contrôlé dynamiquement. C'est des niveaux d'énergie différents. Ce n'est pas le même niveau d'énergie. On voit que l'électron qui est ici, dans une orbite bien loin de l'atome, son niveau, sa distance augmente, ça va lui prendre très peu d'énergie de le faire sortir de dans son atome. C'est pourquoi les électrons de conduction au bout des atomes dans le métal sont très faciles à faire partir. Parce que l'énergie, justement, qui demande ici, elle est très, 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 très faible. À ce moment-là, juste en leur mettant une livolt, puis ils sortent de leur carrière, de leur trou. Parce que l'énergie, justement, plus il s'éloigne de l'atome, et plus l'électron est retenu plus difficilement, ou moins retenu dedans son atome. Bon, maintenant, ça, c'est le même procédé que pour le corps, les corps de l'homme. C'est-à-dire que ça, pour exprimer ça, là, on pourrait dire que l'électron qui est ici, sur cette orbite-là, sur celle-là, ou sur celle-là, mais jamais nulle part à l'aider. C'est-à-dire qu'il y a des points bien précis où il peut être, point par ailleurs. Et même pire que ça, parce que la théorie de mécanique quantique dit que lorsque l'électron va partir de là à là, il ne passera jamais par l'espace qui a été dit. Ça, c'est encore plus. C'est comme si moi, je décidais de partir de Montréal, puis d'aller à Québec, mais je ne passerai jamais par Drummondville, je ne passerai jamais par aucun point, je pars de Montréal, j'arrive à Drummondville. Voilà. C'est le téléporteur. Mais je veux dire, l'atome le fait. Ça doit se faire autrement aussi. Hein? Bon. Maintenant, ce qui est important de noter, là, c'est que l'énergie elle-même de chacun des niveaux est proportionnelle à un nombre qu'on appelle le nombre quantique. C'est-à-dire, c'est juste un chiffre qui va prendre la valeur de 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à l'infini comme ça. Et on dit que l'énergie du niveau en question va être égale à une constante moins une constante, parce que c'est toujours négatif, hein, c'est l'énergie à retenir, sur le nombre n au carré. Encore une fois, je ne vous donnerai pas ce que ça vaut. Bon. Ce que ça signifie, c'est que lorsque n est égal à 1, c'est-à-dire qu'on est à l'état de repos, c'est le plus petit chiffre qu'on peut avoir, 0, on ne peut pas le mettre. 1, c'est le plus petit chiffre qu'on va avoir, c'est un chiffre entier, 1, 2, 3. Donc, lorsqu'on a égal à 1, on a que le niveau ground state, c'est-à-dire le niveau d'énergie initiale, va être égal à 1, qui est égal à moins K. Ça, c'est notre premier niveau d'énergie. Le deuxième niveau d'énergie de cet atome-là, c'est ici, ça va être égal à quoi? K sur N, qui est égal à 2 maintenant, au carré, c'est 4, c'est égal, ici, à 2, moins K sur 4. Si on continue n égale à 3, on va y aller à moins 3 sur 9, puis etc., etc. Donc, au fur et à mesure qu'on monte dans les niveaux énergétiques, plus ils sont rapprochés les uns des autres. OK? Et ce sont tous des niveaux, ce qu'on appelle en anglais, discrete. C'est-à-dire des niveaux bien définis. C'est pas ni par en haut, ni par en bas, puis c'est défini de l'ordre d'électron-volt, c'est-à-dire de millionième et de millionième et de millionième et de millionième de joule. C'est des très petits nombres, c'est plus ou moins un électron-volt. C'est-à-dire que le niveau, là, il est bien défini. C'est entre ça et ça. C'est pas ni au-dessus ni à ça. Si c'est en dessous, ça va sur le niveau. Si c'est au-dessus, ça va sur le niveau. Comprenez-vous? Je peux pas avoir plus que ça. Donc, ça, c'est comment est-ce que l'atome d'atome d'hydrogène fonctionne. Et ça se complexifie. Et dans l'homme, ça se complexifie aussi. Ce qui se produit, c'est que jusqu'à présent, la seule chose qu'on a tenu compte, c'est la force d'accélération la force de Coulomb, la force qui cherche à combiner l'atome dans un bloc, c'est-à-dire la force électrique entre l'électron et le noyau. Si, en plus de ça, on tient compte du fait du moment angulaire, c'est-à-dire le fait que l'électron lui-même spin autour de son atome, comme la Terre tourne de même qu'elle tourne autour du Soleil, tu vois ce que je veux dire? Non? La Terre tourne, ça tourne autour du Soleil, l'électron tourne aussi, puis tourne autour du noyau, il y a spin. À ce moment-là, il y a décomposition des niveaux. C'est-à-dire que pour un niveau donné, mettons celui-là, il peut diviser en trois parties. C'est en réalité ce niveau-là, d'ailleurs, qui divise, divise en trois parties. Dépendant de l'électron spin comme ça, ou pas de spin, ou spin comme ça. Donc, il y a trois différents niveaux d'énergie pour le même niveau d'énergie. Okay? C'est-à-dire qu'au départ, on est parti avec 4 niveaux d'énergie, 5 niveaux, ou une infinité de niveaux d'énergie. Maintenant, à l'intérieur d'un même niveau d'énergie, il y a 3 sous-niveaux d'énergie. Ce que ça donne, ça, c'est que lorsqu'on arrive dans le corps humain, c'est exactement pareil. Nous sommes un être énergétique, nous sommes des êtres énergétiques. Et tous nos corps sont finalement une succession comme ça, des niveaux d'énergie. Ce qu'on appelle l'aura. Hein? Il y a des gens qui sont confus avec ça. L'aura, c'est l'ensemble de toutes les corps énergétiques. C'est-à-dire le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, le corps spirituel, le corps bouddhique, le corps atmique. C'est ça l'aura. C'est tous ces corps-là ensemble qui forment un tout. Comme la lumière blanche est formée des 7 couleurs, et l'aura, c'est formé des 7 corps. Les 7 corps qu'on parle, le corps physique, le corps éthérique, corps astral, etc. Bon. Ça, c'est notre état de repos. C'est-à-dire le corps qui possède le moins d'énergie. C'est pas dans le sens qu'il n'y a pas d'énergie dans la matière, non. Mais c'est que toute l'énergie qu'il y a dans la matière, elle est requise pour que la matière se meure en matière. Elle ne peut pas être utilisée ailleurs. Donc, dans ce sens-là, cette liberté est complètement nulle. Parce que toute l'énergie qu'elle contient, c'est-à-dire MC carré, et faites-moi croire que c'est un gros chiffre, toute cette énergie-là doit rester dans la matière. Elle ne peut pas être transformée en d'autres choses. Si on le fait, à ce moment-là, la matière ne sera plus matière. Et c'est ce qui arrive dans les procédés de radioactivité, c'est que la matière contient une certaine forme d'énergie, une certaine quantité d'énergie. On va aller en chercher, mais à ce moment-là, l'atome se brise. C'est que cette énergie-là, elle n'a besoin pour rester stable, stationnaire, dans un bloc. Par contre, le corps physique a une très, 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 très importante propriété, c'est qu'il permet de faire de la matière avec de la lumière. Parce que c'est ça le corps physique. Le corps physique, c'est de la lumière coagulée. D'ailleurs, c'est les preuves les plus flagrantes sont sûrement n'importe quel livre de physique sous-élémentaire, où on parle de la particule atomique fondamentale, la plus petite qui existe, c'est le photon, c'est-à-dire le grain de lumière. Le grain de lumière est à la base des électrons, qui sont à la base des atomes, qui sont à la base des molécules, qui sont à la base des... jusqu'aux galaxies. Donc, la lumière, au départ, c'est elle qui constitue l'univers. C'est elle qui constitue la structure fondamentale où est-ce qu'on a tout bâti autour. C'est comme si on prend un cristal de sel, un ACL, comme j'avais laissé tantôt, c'est un carré. Si vous regardez le gros cristal de sel, ça va être une somme de tous ces carrés-là, mais ils vont tous être pareils. Ça va être la répétition, si on veut, du même carré. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est la même chose. Maintenant, lorsqu'on arrive dans le plan éthérique, on en a parlé pas mal jusqu'à présent, c'est le plan de la vitalité, c'est un corps qui est électrique. Lorsque, dans la Bible, on parle du feu du ciel, ben le feu du ciel, c'est quoi? C'est la foudre. La foudre, c'est quoi? L'électricité. On a même fait des expériences qui prouvent que la vie est apparue sur la Terre à la suite d'une explosion électrique. C'est-à-dire, en anglais, un spike. C'est-à-dire une étincelle électrique dans un processus, dans un produit, un composé de chaînes carboniques, a fait la vie. C'est le plan éthérique. Je vais regarder, je pense que j'avais quelque chose qui s'est arrivé dessus. Bon, c'est bon. Le plan éthérique a comme propriété d'être justement morphogénétique. C'est-à-dire qu'il a la propriété de matricer, c'est-à-dire de faire une matrice, de faire une forme autour que le corps physique va respecter. Si vous prenez une salamandre, encore une fois, que vous y coupez la queue, La queue va être poussée. Exactement comme elle était. Parce que, même s'il n'avait plus de queue, mais si vous aviez pris votre salamandre, que vous aviez coupé la queue, que vous aviez fait une photographie kirlienne, vous auriez vu qu'elle est encore là, énergétiquement parlant, la queue. Dans le champ électrique, la queue est encore là. Donc, c'est la raison pour laquelle notre queue sont bâtie exactement comme elle était avant. Puis, on a même fait des choses assez incroyables. On a coupé la queue d'une salamandre, on a inversé le potentiel, c'est-à-dire le voltage, et on a vu une tête apparaître. Et ces animaux-là ont la propriété de se régénérer. Hein? C'est-à-dire que si tu coupes une patte, la patte va repousser. Si tu coupes une queue, la queue va repousser. Si tu coupes la tête, ça sera bien fini. Hein? Mais ici, tu coupes la queue et tu fais apparaître une tête. Deux têtes dans le nucléaire, les versions, c'est toujours jamais si elle bat en aller. Hein? Par en avant, par en arrière, par en avant, par en arrière. Il y a aussi quelque chose de bien important, c'est que dans notre univers, on n'a jamais vu de variation, et c'est là d'ailleurs les lois de la théorie électromagnétique, dans le champ éthérique ou dans le champ électrique, parler de physique, hein, sans qu'il y ait une variation dans le champ magnétique. Ça c'est bon, ça l'air en bas de notre champ magnétique. Le champ magnétique, il n'est pas compliqué, il est juste ici. L'astral. Et c'est lui qui est divisé en trois sous-sections. Vous vous souvenez quand j'ai parlé des niveaux d'énergie, quand tu rentrais quelque chose en commun, c'est divisé en trois sous-sections. Cette sous-section-là est à peu près au même niveau que le corps éthérique. C'est ce qu'on appelle l'astral bas. Énergétiquement, tu n'as pas plus de liberté qu'un animal, finalement, parce que l'animal vit au niveau du corps énergétique. Tu as le niveau astral, point, c'est-à-dire qu'il est au niveau de l'astral. Et tu as l'autre niveau ici qui est égal, un petit peu supérieur ou un petit peu inférieur au mental. Donc, tu as une façon, tu as un niveau dans l'astral, c'est-à-dire dans le corps émotionnel, qui est au même niveau de conscience que le mental. C'est ce qu'on appelle la béatitude émotionnelle. Ces deux champs-là sont interreliés comme X et Y, d'un chromosome. Il n'y a jamais quelque chose qui peut se passer dans l'un sans que ça interagisse sur l'autre. Et c'est là la source de toute la guérison placebo. On s'est aperçu, toujours dans les recherches, que lorsqu'une personne était en état de produire l'onde alpha du cerveau, parenthèse, les quatre ondes qui sont émises qu'on connaît du cerveau. L'onde alpha correspond à l'état qu'on appelle l'état éveillé, de veille, mais très calme, en même temps qu'on est très éveillé. Okay? C'est de 10 à 20 Hz. Et l'énergie est de l'ordre de 3 microvolts. Bêta, qui est nocif, très nocif, qu'on observe de 20 à 30 Hz, qui est environ de 1 microvolt, et qui arrive dans les situations de stress. Ensuite, theta, qui est de... OK, là, alpha, bêta sont au bout du spectre, theta, gamma sont au début du spectre, c'est-à-dire theta va de 1 à 3 Hz. Il est très élevé, ça veut dire l'ordre de 30 microvolts. C'est l'état de rêve éveillé, l'état de somnambulisme, l'état de l'énergie supérieure. Et l'énergie, là où l'énergie est la plus grande, c'est lorsque vous dormez profondément. C'est là qu'ils sont aussi, en effet, les facultés de réparation les plus extraordinaires. C'est petit et c'est très très petit, c'est de l'ordre de 0,5 à 1 Hz. Donc, si vous voulez, puis le niveau énergétique, c'est 300 microvolts. On part de 1 microvolt à 300 microvolts. Si vous voulez vous relaxer, écoutez l'horloge. Parce que c'est en plein de delta. En plein de delta. Si par contre vous êtes nerveux, vous êtes ici. On a prouvé que l'émission d'onde bêta réduit considérablement le niveau d'électrolyse dans le corps, c'est-à-dire le niveau de balancement des organismes. Voyez-vous, le sang a besoin d'une certaine quantité d'oxygène. Cette quantité d'oxygène-là va venir de deux façons. Soit les globules rouges, qui vont donner leur oxygène, ou soit l'électrolyse. C'est-à-dire que dans le sang, il y a des petits potentiels, comme on a montré tantôt, et ces potentiels-là se trouvent à diviser les atomes en faisant deux ions, un ion qui contient de l'oxygène, puis l'autre qui contient du sel et du chlorure. À ce moment-là, ces ions d'oxygène-là sont utilisés par le système nerveux pour vivre. C'est ce que ça nous prend, l'oxygène. Quand le niveau bêta arrive, la sustentation électrolytique est nulle. C'est-à-dire que tout l'oxygène que le cerveau et le corps ont besoin, il doit aller chercher dans le sang. Il n'y en a plus formé par l'électrolyse. Ce qui se produit, c'est que les globules rouges qui sont grosses, hein, lorsqu'on va aller chercher des choses d'oxygène, l'énergie proprement dite au niveau, à l'endroit. Vous regardez ici, il y a un comme ça qui descend, là, dans les bleus, c'est le plexus solaire. C'est-à-dire que cette personne-là, avant, avait beaucoup d'énergie au cou, beaucoup d'énergie à la tête, et très peu au plexus. Il blocage. C'est de l'énergie ici, c'est de l'énergie là, mais il n'y a rien qui sort là. Donc, la personne avait un blocage et tout. Puis après, vous regardez les bleus dans les. Ça, c'est avant que les guérisseurs travaillent dessus et après que les guérisseurs ont travaillé dessus. Vous voyez que cette énergie, premièrement, était négative partout, c'est-à-dire que son organisme suçait de partout, puis à la fin, il était positif de partout, c'est-à-dire qu'elle émettait de partout. Fait qu'on s'est aperçu, justement, comme on le voit là-dessus, que les guérisseurs ont un véritable effet. C'est pas juste un effet placebo, ou si ça n'est pas, c'est tout un effet placebo. Et que si tu prends une personne normale, qui essaie de faire la même expérience avec notre patiente, aucun effet. Donc, c'est pas un effet placebo. Même si la personne était, on disait, mettons, toi, tu vas aller guérir lui, puis là, on dit à lui, ça, c'est un super de bon guérisseur, il était fier, hein, il va te guérir ça de même. La personne a confiance dans ce bonhomme-là, l'effet placebo va fonctionner, il n'y aura pas d'effet. Par contre, on va prendre le vrai guérisseur, on va dire à la personne qui va se faire guérir, oh, c'est pas si bien bon, on va voir, on ne sait pas vraiment si c'est bien bon. L'effet placebo ne devrait pas fonctionner, justement, puis on a le plus gros effet que ça. C'est vraiment le médium, c'est vraiment le guérisseur qui fait le travail. Et c'est véritablement un travail qui est fait, et c'est encore une fois électrique. Quand vous prenez votre main, que vous appliquez votre main sur la peau d'une personne ou proche de la peau, vous avez tout le voltage sur la main, qui rencontre la peau et qui induit une charge à cet endroit-là. Tandis qu'on a dit que c'était les charges électriques qui stimulaient la régénérescence, ben voilà, vous l'avez, votre affaire. Quand la personne, sa main, elle est négative, c'est-à-dire qu'elle absorbe de l'énergie, c'est pas le temps d'aller essayer d'aider parce que vous allez mourir. Votre main étant négative, quand vous l'approchez de la peau va devenir positive. Et le positif va inhiber. Quand on dit qu'il faut donner de l'énergie pour guérir, c'est en plein ça. Dans le sens que tu as ton. On va prendre juste la main, là. Bon. Si, ici, c'est positif. OK? Ça veut dire que. Ben, positif par rapport à ici, là. OK? Par rapport au poignet, toujours. Ça signifie que l'énergie, le courant, va comme ça. OK? Mais les électrons vont comme ça. OK? Autrement dit, quand vous allez mettre la peau ici, ce qui va se produire, c'est que la peau ici va changer négativement. OK? Parce qu'elle va toujours prendre la polarité inverse. C'est comme un morceau de métal. Si vous approchez une particule positive d'un morceau de métal, tout va changer négativement. D'accord? Mais c'est la même chose ici. Puis on a déjà démontré que c'était le négatif qui stimule la croissance et la guérison. C'est-à-dire les électrons qui stimulent la croissance des électrons, la croissance et la guérison. Donc, la personne, lorsqu'elle a une main positive par rapport au poignet, elle va guérir. Elle va stimuler notre courant de guérison. Si par contre cette personne-là est négative à sa main par rapport à son poignet, à ce moment-là, le courant va comme ça, les électrons vont comme ça, et étant donné qu'on a dit que c'était nos électrons qui nous aidaient, mais là, on arrache de l'énergie. Notre chose, donc on la charge positive. Là, on y est. Donc, quand les anciens disaient que si tu te sens pas en forme, vaut mieux pas essayer de faire quoi que ce soit, c'est en bien vrai, parce que si tu te sens pas en forme, tu essaies de faire quoi que ce soit, tu vas mieux après que tu aies. Quand je vous aurais dit c'est impossible, aujourd'hui je vous dirais, payez-vous sa machine, vous allez voir. Ah ben ça, je veux dire, il n'y a pas de... Je peux pas vous dire quand votre tête a fait pipi-pipi que tu sens ça, ça marche. Il n'y a pas de moyen autre que prendre la machine, mesurer si ça n'est positif ou négatif. Mais en général, ce qui se produit, c'est bien facile de te mettre en positif dans tes mains. Tu te remplis d'énergie. Tous ceux qui font la guérison complètement, c'est complètement, c'est pas mieux ça. Oui? L'adverbe de compétent? C'est pas un mot, hein? Louis aime du noir, j'ai ça là. On va le mettre dans le dictionnaire, là. Tout guérisseur compétent va, avant de faire la guérison, se remplir d'énergie. C'est-à-dire faire la technique, là, justement, où tu vas chercher l'énergie, tu la rentres en dedans de toi, pour de façon à devenir un ballon gonflé. À ce moment-là, tes mains ne peuvent pas être autrement que positives. Si, par contre, tu sens un peu de réticence, fatigué, tu sens faible, à ce moment-là, tes mains vont être négatives. Ils vont aller chercher l'énergie, ils en ont besoin d'énergie, tu es fatigué. À ce moment-là, tu es sûr d'être en négatif sur tes mains. Comprends? OK. Ça, c'est pour le corps électrique. Le corps magnétique, il est encore plus compliqué que ça. Et puis, tellement complexe que la capacité de l'assimiler ou la capacité de l'étudier n'est apparue que vers les années 1980 à 82. Ça pas longtemps, ça, hein? Avec une machine qu'on appelle le Squid. Oh. Oh, c'est avec. Là, je viens de faire ma résumé, là, de mon résumé en. Ouais. Vous n'en avez pas perçu, mais c'est que j'ai bien fait de résumer.
Mais il faudrait qu'on
ait
le temps de passer les
autres. OK. Dans 2 semaines, peut-être. Dans 2 semaines? Oui, OK. OK. On donne des cours ensemble. Oui,
non.
Université internationale.
Ça vous va, dans 2 semaines,
j'ai pas trouvé l'âme encore.